Bonjour à tous, vous êtes en compagnie du Pays Carcassonnais pour son émission Pays de Carcassonne, Terre de Séjour. Et je vous emmène à l'assaut de la cité médiévale de Carcassonne, puisque nous avons la chance d'accueillir son administrateur Jean de Dolin, qui représente le Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Jean.
Bonjour.
Alors je crois qu'il faut peut-être commencer par expliquer le rôle du Centre des Monuments Nationaux.
Alors le Centre des Monuments Nationaux est lui-même héritier, disons, de ce qu'on appelait MONUM, donc les Monuments Nationaux, qui étaient avant la Caisse historique des Monuments Nationaux. C'est une structure, en fait, qui rassemble un ensemble de bâtiments, 96, près d'une centaine, qui sont propriétés de l'État, qui ont eu des fonctions diverses, mais qui sont surtout représentatifs de l'architecture et de l'histoire de France. Donc on parcourt aussi bien des lieux comme le Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, que l'Arc de Triomphe quand on se trouve à Paris, la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, que des abbayes comme le Toronnet ou même d'autres lieux emblématiques qui peuvent être des sites archéologiques et autres. C'est très bien parce que ça nous permet, nous, au Centre des Monuments, d'avoir un territoire qui couvre l'ensemble du pays, d'une part. Deuxièmement, d'avoir à peu près une trentaine d'administrateurs qui gèrent ces lieux. Donc, quelquefois, comme moi-même, nous gérons plusieurs lieux en même temps. On y reviendra tout à l'heure. Et surtout, de pouvoir avoir une perception du territoire, de sa mise en valeur de ce territoire à tout moment.
Puis d'avoir une même politique sur l'ensemble de la France également.
Absolument. La politique est menée par Paris, donc le siège qui est dans un hôtel particulier qui est l'hôtel de Sully, un endroit emblématique
magique. Je suis passé devant il n'y a pas longtemps.
Très bien situé puisqu'il se trouve dans le 3e arrondissement. Et en plus, il voisine la place des Vosges et le boulevard Saint-Antoine. Et donc, un endroit magique qui nous permet, disons, par une politique commune, de décider des grands axes. Mais il y a quand même une action menée localement en fonction justement des monuments, en fonction des politiques locales et évidemment des liens que nous pouvons avoir avec nos partenaires.
D'accord. Alors, je regardais sur votre site, donc c'est quand même impressionnant au niveau national parce que c'est quand même 9 millions de visiteurs, donc ce qui est quand même énorme. Vous êtes le premier opérateur culturel et touristique public français, donc ça, il y a aussi peu de gens qui sont au courant de ça. Puis c'est 1300 agents d'employés avec un budget en 2010 de 120 millions d'euros, donc c'est vraiment une énorme machine quand même.
C'est considérable, ça peut paraître énorme au niveau du budget, il faut considérer aussi que la grande part de ce budget est dédiée à la restauration des sites, c'est-à-dire que ce que nous appelons la maîtrise d'ouvrage et toute cette partie, on pourra en parler d'ailleurs au niveau de Carcassonne, de 2,7 km, près de 3 km de murailles, nécessite chaque année un entretien important. Je ne parle pas des toitures. Et donc nous nous retrouvons confrontés à des monuments qui ont quelquefois une vétusté pour certains, une usure au temps qui peut être relativement importante. Et il est vrai que chaque marché qui peut être à un moment ou à un autre décidé sur le niveau de la construction, de la restauration, etc., et en général de l'ordre du million d'euros. Donc il est évident que cette somme peut paraître beaucoup, mais relativement réduite par rapport aux besoins.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait beaucoup comme ça au premier chiffre. Et puis après, quand on voit que vous gérez tous ces grands monuments comme l'Arc de Triomphe, le Mont-Saint-Michel, on se rend compte de la somme du travail. Et tout compte fait, c'est très peu, 120 millions d'euros, surtout avec 1300 employés et cette maîtrise d'ouvrage.
Exactement. Alors, il est vrai qu'une grande part et la majeure partie des recettes est l'autofinancement, ce qui est heureux. Et il y a aussi une solidarité qui existe au sein du CMN, c'est-à-dire des monuments qui gagnent de l'argent. À l'exemple de Carcassonne, nous avons la chance d'être sur un site qui gagne de l'argent, permet, par une remise dans le tronc commun, d'aider et de financer d'autres sites qui ne mériteraient peut-être pas la possibilité d'être ouverts au public, parce que justement, ils ne sont pas rentables a priori dans le sens économique du terme, alors qu'ils le sont évidemment sur un plan culturel, ce qui est l'essentiel de notre vocation.
Et puis, ça nous permet à nous visiteurs d'avoir une politique tarifaire aussi qui est accessible, puisque les tarifs ne sont pas non plus prohibitifs. On le verra tout à l'heure plus précisément avec le prix d'entrée au Château Comtal. Alors, vous êtes sur Carcassonne, mais vous ne gérez pas que Carcassonne, d'après ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, nous avons, enfin moi j'ai deux sites à gérer, la cité de Carcassonne d'une part, et dans les Pyrénées-Orientales, la forteresse de Sals. Donc deux enjeux majeurs, deux positions stratégiques, hein, au cours de l'histoire, je ne referai pas l'histoire, les gens ici la connaissent mieux que moi et ô combien. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi deux époques et deux fonctionnalités au cours de l'histoire. Carcassonne, on pourra y revenir tout à l'heure, mais les gens la connaissent mieux. Sals, c'était un verrou et une place forte qui a été imaginée à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Elle a été construite en 7 ans et permettait de contrôler pour l'Espagne à l'époque, puisque ce territoire faisait partie du royaume d'Aragon, de pouvoir surveiller l'envahisseur éventuel dans cette plaine du Roussillon qui était encore, j'allais dire, l'ennemi français par rapport aux Espagnols.
Alors, si on revient sur Carcassonne, donc la cité est libre d'accès, bien évidemment, mais après, donc, il y a la visite de ce qu'on appelle le château comtal. Et donc là, on rentre directement chez vous, au cœur du centre des monuments nationaux. Alors, quand on rentre au château comtal, qu'est-ce qu'on visite? Comment ça se passe?
Alors d'abord, on se retrouve dans un lieu qui est assez magique, que nous appelons la Barbacane, qui est l'entrée et un système de défense avant d'accéder au château comtal lui-même et avant de franchir ce que nous appelons le pont-levis, qui n'est plus un pont-levis puisque c'est un pont de pierre. Et une fois rentré à l'intérieur, on a la chance de pouvoir découvrir un château constitutif et représentatif de ce qu'était l'époque du XIIIe, XIIe, XIIIe siècle. Évidemment, évolué, évidemment, remanié à différentes époques. Mais nous avons ce cœur et ce corps de logis d'époque, d'une part, restauré, on le sait tous, en partie par Viollet-le-Duc, mais qui montre ce que pouvait être, j'allais dire, un habitat de l'époque. Mmh. Donc le lieu du pouvoir en même temps, et dont on a une majorité, disons, d'existants, et puis l'enceinte qui, justement, protège cette cité.
D'accord, et donc ça nous permet aussi de faire la visite sur les remparts, puisqu'on voit souvent des touristes sur ces remparts qui ne sont pas toujours en accès libre quand on est en dehors du château comtal.
Alors quand on rentre dans le château comtal, bon, une fois découvert les deux cours, la cour d'honneur et la cour du midi, nous accédons au deuxième étage, et au deuxième étage nous avons une salle qui nous présente un petit film de 12 minutes retraçant un peu l'historique du lieu à travers l'histoire et les campagnes de restauration qui ont pu être menées donc au cours du 19e siècle. Et à partir de là, les publics sont invités à parcourir ce que nous appelons la chemise, c'est-à-dire les créneaux et les remparts eux-mêmes du château comtal, et de poursuivre sur l'ensemble de l'enceinte, soit le rempart nord, qui est en visite libre, soit le rempart ouest, qui est pour le moment en visite accompagnée pour des questions de sécurité et que nous souhaitons pour le moment faire en visite accompagnée, mais qui sera restauré dans peu de temps et permettra au public aussi par la suite d'être visité en visite libre.
Alors le film est une des dernières animations qui a été mise en place et c'est vraiment un très bel outil qui explique très très bien la rénovation de la cité, donc très pédagogique et en même temps c'est très court, donc pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, bien on vous invite à revenir au château comtal voir ce film. Alors il y a également des expositions sur ce lieu.
Alors il y a un musée lapidaire, c'est un musée qui recueille un ensemble d'éléments non seulement de la cité mais aussi de certaines abbayes de l'Aude et des alentours et qui sont des œuvres en dépôt qui appartiennent souvent au département ou, disons, aux anciennes collections Cross-Merveille, lui-même ayant fait à l'époque une donation. Et ce musée lapidaire qui sera revisité dans quelques années. Nous pensons commencer à élaborer un comité scientifique et une réflexion pour le revoir, le refondre, le représenter différemment. D'ici 2014, nous permettra d'avoir une autre vision de ce que pouvait être la cité, peut-être introduire un peu plus des éléments de l'époque de Viollet-le-Duc, d'une part, et montrer un peu plus peut-être les campagnes qui ont pu être menées et qui nous donnent une meilleure perception depuis l'époque romaine jusqu'à, disons, nos jours, quasiment.
D'accord. Et sinon, d'autres expositions de prévues, peut-être plus temporaires ou...
Alors, nous sommes en train de mettre en place un ensemble d'expositions temporaires. J'ai souhaité, ça fait 4 mois que je suis là, mais avec les équipes, nous réfléchissons. Et déjà pour 2012, nous offrirons 2 expositions temporaires au printemps, une dédiée au gisant de Saint-Denis, des rois de France, photographiée par un photographe qui s'appelle Antoine Schneck, qui seront présentés du 30 mars. Je crois que nous inaugurons le 30 mars. Donc, week-end des rameaux, jusqu'à la fin du mois de juin.
D'accord.
Une deuxième exposition d'une grande photographe qui s'appelle Sarah Moon, qui est une des grandes photographes de l'agence Vue, qui elle-même est mondialement connue, qui est une grande dame, disons, de la photographie, qui a fait tout un travail sur le chaperon rouge. Et comme cette année, un des thèmes que nous abordons est l'imaginaire, nous avons voulu traiter le conte à travers le chaperon rouge et à travers le travail de Sarah Moon. Nous allons mettre aussi en place des jardins éphémères dans les fossés du château Comtal qui seront réalisés par le lycée Charlemagne avec lequel nous avons établi récemment une collaboration qui j'espère durera de nombreuses années et qui permettra de réaliser chaque année donc un jardin éphémère sur l'emplacement des fossés et peut-être d'étendre d'ailleurs dans le cadre d'une collaboration avec la ville à des partenariats plus importants et peut-être d'ouverture de jardins, d'hôtels particuliers, peut-être d'autres lieux au sein de la ville pour les journées du jardin au mois de juin. Et puis nous sommes en train de voir aussi une mise en lumière de la cour d'honneur. Et j'ai demandé à Christian Salès, que tout le monde connaît ici à Carcassonne, de préparer en fait un ensemble de recueils des travaux et des réalisations qu'il avait fait récemment sur la chanson de la croisade qui permet de montrer à un public, à travers une animation, ce qu'était l'histoire, disons, de Carcassonne, de Narbonne et de Béziers au moment justement cathare et donc des 12e et 13e siècles. Et ça nous permettra d'ouvrir la cour d'honneur le soir, certains soirs du mois de, à partir de, disons, fin mars jusqu'à l'été, les week-ends, et au public de pouvoir visionner une mise en lumière et une projection sur les façades de la cour d'honneur.
Et pour les enfants et les personnes à mobilité réduite, est-ce que le Centre des Monuments Nationaux a prévu quelque chose ?
Surtout pour les enfants, je néglige pas non plus la mobilité réduite, mais pour les enfants, nous sommes en train de mettre en place vraiment une exploitation, si j'allais dire, des expositions temporaires. Notamment celles que nous avons évoquées tout à l'heure, nous allons les préparer avec certains établissements scolaires pour faire en sorte que les enfants, avant de venir visiter ces expositions, aient un aperçu de ce qu'elles représentent et puissent travailler soit en amont, soit au moment où ils visitent l'exposition sur tel et tel sujet. Roi de France, quels étaient-ils ? Quels ont été leurs rôles à un moment ou à un autre ? À propos du conte, justement, et des contes en général, créer eux-mêmes des histoires qu'ils pourront eux-mêmes raconter in situ ou éventuellement préparer à l'intérieur de leur établissement scolaire. C'est très important et nous attribuons beaucoup d'importance, j'allais dire, au travail vis-à-vis des enfants parce que c'est toute l'éducation, c'est tout l'éveil à la création, à l'imaginaire qui est pour moi essentiel, qui sera toujours. À l'égard du handicap, nous sommes aussi en pointe. Nous essayons de voir, y compris avec de nouvelles technologies, une mise en place, par exemple, de tout ce qui peut être tactile. On utilise de plus en plus, regarder nos téléphones et ce qu'on appelle le iPad maintenant. Nous mettons en place avec nos équipes tout un système au toucher qui permet pour des visites à un moment donné, quels que soient les gens, quels que soient les publics, de pouvoir découvrir à travers un écran tactile ou à travers, j'allais dire, des projections, un certain nombre de choses. Donc, nous expérimentons en permanence, nous faisons en sorte, justement, compte tenu de l'importance du lieu, des possibilités d'exposition, mais les possibilités aussi de visite, de pouvoir fournir, justement, à tous ces publics un élément essentiel et renouvelé en permanence.
Eh bien, merci beaucoup, Jean. Donc, chers auditeurs, vous retrouverez plus d'informations sur le site internet www.monuments-nationaux.fr ou un téléphone 04 68 11 70 70. Vous pouvez également retrouver le Château Comtal dans le bon plan week-end cité canal l'UNESCO du Pays Carcassonnais sur le site www.payscarcassonnais.com. Donc nous retrouverons Jean dans 15 jours pour tout savoir sur ses coups de cœur touristiques. Eh bien nous vous souhaitons une bonne journée, à très bientôt.
Non.